L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain », toujours avec Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi, pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton messager qui vient de ta part. Bénis ce message, bénis ton messager, Seigneur. Bénis ces hommes et ces femmes qui vont nous écouter par millions. Sur Internet, sur Radio FM, sur des supports informatiques, Seigneur, nous voulons que l'homme disparaisse et que nous n'entendions que ton message. Dispose nos cœurs, Seigneur. Parle-nous encore une fois et fais-nous du bien. Sauve celui qui a besoin d'être sauvé. Guéris celui qui a besoin d'être guéri. Édifie celui qui a besoin d'être édifié. Encourage celui qui a besoin d'être encouragé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du Samaritain. Jonathan. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur cette parabole qui est une parabole très très riche, parce que le nombre d'émissions qu'on a déjà faites sont impressionnants.
Que Dieu soit béni, eu égard à toutes les leçons qu'elle nous réserve dans cette parabole, des leçons qu'il faudra non seulement garder à l'esprit, mais qu'il faudra vraiment développer dans notre vie quotidienne, qu'il faudra mettre en pratique. Je voudrais d'abord lire ce verset de Matthieu 11, verset 28, où la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes. Cette question est très importante. En fait, ces paroles sont puissantes, parce que Dieu nous fait voir que nous devons retourner à lui, nous qui sommes fatigués, chargés. Et si j'ai commencé par lire ce texte, c'est parce que j'ai pensé toujours à cet homme. Il était à Jérusalem, il a préféré quitter Jérusalem et descendre vers Jéricho. Beaucoup de gens ont choisi de quitter Jérusalem à cause de beaucoup de raisons, alors qu'ils pouvaient bien rester à Jérusalem. Malgré ces raisons-là, ils ont préféré quitter Jérusalem, c'est-à-dire quitter la présence de Dieu, pour descendre vers Jéricho, le lieu le plus bas. Et nous savons ce qui est arrivé à ce monsieur. Il a dû rencontrer des situations très difficiles. Et il y a un texte qui m'amène même à croire que cet homme a rencontré des étapes de ce texte de Ésaïe, chapitre 5, versets 5 à 7. On va lire ça.
Ésaïe,
chapitre 5. Versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie.
En fait, ça c'est sur comme elle, la pluie sur elle.
Ça c'est comme une conséquence déjà, hein, que Dieu fait pleuvoir sur une vigne. Au contexte, au premier verset, on parle d'une vigne, de la vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il lui creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne? Qu'ai-je pas fait pour elle, je voulais dire. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ça, on dirait une punition, je peux dire. Bon, après tout ce que j'ai fait pour toi, parce que lorsque nous descendrons au verset 7, la vigne en question,
c'est la maison d'Israël.
La vigne de l'Éternel, désormais, c'est la maison d'Israël. Voilà ce que je vais faire, je vais arracher la haie. La haie, on voit la clôture. Un peu pour dire que lorsque nous acceptons les principes de Dieu, lorsque nous restons dans sa présence, lorsque nous restons à Jérusalem, nous sommes protégés par une haie. C'est-à-dire que nous sommes en sécurité. Mais lorsque nous quittons Jérusalem, nous perdons cette clôture et nous sommes broutés par l'ennemi. C'est vraiment ce qui est arrivé à cet homme. C'est pour ça que je dis qu'il a sûrement suivi ces étapes. En quittant Jérusalem, il a perdu la protection de Dieu. C'est vraiment ce qui arrive à tous ces chrétiens qui choisissent de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Deuxièmement, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et c'est ce qui arrive aussi à toutes ces personnes. Cet homme était à Jérusalem, descendant, ce sont les brigands qui ne l'ont pas laissé. Ils l'ont foulé. Hein? Ils ont foulé tout ce qui était à lui. C'est ce que l'ennemi fait dans la vie de beaucoup de ceux qui quittent loin de Dieu. Et nous le dirons toujours, loin de Dieu, il n'y a point de vie. Lorsque nous quittons la présence de Dieu, l'ennemi a un seul objectif, nous fouler à pied. Pas seulement fouler notre vie, mais même ce qui est à nous, notre santé, fouler même nos bénédictions, combattre notre avenir, notre destinée. Ça, c'est la manie de l'ennemi. Regardez le verset 6. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Ça, il y a aussi l'ennemi. Le Seigneur, lorsque nous retirons à lui, ben il laisse. Et l'ennemi vient, hein, il nous combat, il veut nous détruire définitivement, hein, conformément à ces textes de Jean 10:10.
Justement, c'est ça que j'allais lire.
Oui, tu peux.
Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Voilà.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Voilà. Égorger, dérober et détruire. C'est ça, en fait. Lorsque l'ennemi vous égorge, en fait, il veut votre mort.
Il commence
mort.
D'abord par voler.
Voilà.
Il l'égorge.
Oui.
Et puis il détruit.
Oui. Mais le verbe là, égorger, déjà, je vois, c'est l'image de quelqu'un qui veut pas votre vie.
Tout à fait.
Il veut votre mort. Parce que quand on vous coupe la tête, c'est fini.
Il veut vider du sang.
Est-ce qu'on a déjà vu
du corps?
On a déjà vu quelqu'un se promener sans tête. Non. Donc, en fait, il veut vous détruire. Regardez le verset 6. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Parce qu'en fait, dans une vigne, on a l'habitude d'émonder ces arbres. On les taille pour éviter qu'elles puissent produire des étapes qui sont pas intéressantes, quoi. On les taille, on leur donne une certaine forme. Je suis pas vigneron, mais au moins on les monte. Mais je me réfère au texte de Jésus dans Jean chapitre 15. Le Seigneur fait dans nos vies.
15 versets.
Jean chapitre 15, on peut commencer au verset premier.
Je suis le vrai cèpe, oui. Et mon Père est le vigneron. Mmh. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il retranche, et tout sarment qui porte de fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Voilà, on se limite là au verset 2. Donc, tout sarment qui porte du fruit, on l'immonde. C'est-à-dire, en fait, je peux dire que Dieu l'entretient. Dieu le prend en charge. Dieu s'occupe de cet arbre-là parce qu'il porte de fruits. C'est ce que Dieu fait aussi dans la vie de tout chrétien, qui porte de bons fruits. En fait, les fruits, pour le Seigneur, ce sont des œuvres. Hein, des œuvres justes que nous pratiquons dans sa présence et aussi au vu aussi de tout ce qui nous entoure.
Le fruit de l'esprit.
Voilà. Et Dieu s'occupe de cette personne, de ces enfants-là qui manifestent de l'obéissance en son égard. Il les émonde, il les taille, il les soutient. Hein, toutes ces personnes qui sont dans des situations où ils cherchent à vaincre un certain péché, Dieu vient les assister, ils cherchent Dieu. Mais ceux qui s'éloignent de Dieu, ben Dieu les laisse. Il ne les cultive pas, il ne les taille pas. Pourquoi ces hommes ont choisi de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho? Il ne va pas s'occuper d'eux. Hein. Et la suite, on est toujours dans Ésaïe 5, on dit... Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Tout ça, Jésus a expliqué ce que c'est les ronces, les épines. Hein? On peut se référer à la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, 22. Jésus a expliqué ce que c'est les ronces, hein? Et les épines. Lorsqu'il parlait de cette semence qui est tombée parmi les épines, il l'expliquera au verset 22 de Matthieu 13, et il le dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est en fait la conséquence vraiment de cette personne qui quitte Jérusalem. Quand elle quitte Jérusalem, en fait, ce n'est plus Dieu qui va l'aider à produire des fruits. C'est-à-dire, ce sera autre chose qui va le pousser à produire d'autres fruits. Les soucis du siècle, les séductions des richesses vont étouffer la parole et vont le pousser à produire d'autres choses qui ne sont pas conformes à la parole. Parce qu'il s'est éloigné de Jérusalem, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Luc chapitre 8, toujours dans la même pensée, le verset 14. Luc a dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça, c'est vraiment l'état de cette personne qui a quitté Jérusalem. Il se retrouve dans cette situation telle que il ne porte pas de fruits. La suite, on dit... Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent... C'est une vigne qui ne va pas connaître la pluie. Enfin, j'ai jamais vu ça, où il y a une vigne où il n'y a pas de pluie, qui ne connaît pas la pluie. Non, j'ai jamais vu ça, mais au moins, la pluie dont il est dit ici, c'est la parole de Dieu. Une personne qui s'éloigne de la présence de Dieu, en tout cas, il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de la parole, parce que la parole, c'est l'eau.
Tout à fait.
L'eau, c'est la parole. De même que l'eau nous purifie, parce que l'eau, c'est un agent purificateur, la parole également nous purifie de toute souillure de péché, parce que le péché, c'est de la saleté. Eh bien, nous avons besoin de l'eau pour être purs. Comme Jésus-Christ a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai envoyée. Donc, ça, c'est vraiment, quand je lis simplement ce texte d'Ésaïe, chapitre 5, 5 à 6 déjà, je vois l'état dans lequel s'est retrouvé cet homme. Il s'est retrouvé dans une situation, il a été brouté, il a été foulé, hein, on l'a attaqué, on l'a réduit en ruine, et il s'est retrouvé avec des plaies, état des péchés. Il fallait donc qu'il soit sauvé. Et c'est là qu'on voit trois personnes qui sont passées par là. Il y a le Lévite, il y a le sacrificateur. Si on peut relire le texte, le premier c'était le sacrificateur.
Luc 10.
Oui, le sacrificateur est passé, le Lévite est passé, et plus tard ce sera le Samaritain.
Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
Très important, c'est cette réalité. C'est vrai, j'ai entendu des gens parler sur le sacrificateur, sur le Lévite. Souvent, on aborde l'aspect que je ne rejette pas aussi, l'aspect selon lequel ces gens n'ont pas manifesté l'amour, ils devaient manifester l'amour du prochain et tout ça. Ça, c'est aussi bon, je ne refuse pas. Hein, le Seigneur a parlé de l'amour.
Le texte, la raison de la parabole, oui, c'est l'amour.
Oui, c'était l'amour du prochain. Mais je voudrais surtout insister par le fait que lorsque je regarde la manière dont on a agencé l'idée, c'est-à-dire l'homme était à Jérusalem, il a laissé Jérusalem pour descendre vers Jéricho. En fait, nous avons compris qu'en fait, le fait de quitter Jérusalem et se retrouver à Jéricho, c'était l'état du péché. Et je ne vois pas vraiment le sacrificateur pouvoir, en tant qu'homme, ôter le péché du Samarie, de cet homme. Je ne le vois pas dans ce sens. Il fallait un homme particulier qui pouvait faire ce travail. Donc, il était blessé, il avait besoin d'un médecin. Le sacrificateur ne pouvait pas être un médecin, ni le Lévite. Seul le Samaritain pouvait être le médecin. C'est pour ça que Jésus-Christ répond à ce profil d'être appelé Samaritain, d'être appelé le médecin.
Par excellence.
Marc chapitre 2 nous relate une histoire où Jésus-Christ était critiqué parce qu'il s'est retrouvé avec des malades. Et ben, des malades, c'est-à-dire des méchants. Je lis le livre de Marc chapitre 2, je commence au verset 15, la Bible dit ceci. « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie. » Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » En fait, les malades ici, ce ne sont pas les malades qui souffrent de la tuberculose, qui souffrent de l'appendicite. Non, lorsque quelqu'un est habillé du péché, si je peux dire ça, est revêtu du mal, pour Dieu c'est un malade.
Tout à fait.
Il a beaucoup de plaies autour de lui. Donc Dieu a besoin que cet homme-là soit sauvé. Voilà. Et la seule personne qui peut sauver ce malade, c'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. Il est le seul qui peut sauver un malade du péché, si je peux l'appeler ainsi. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Ésaïe chapitre 1, verset 6. Je vois par exemple Dieu présenter un malade ici. Hein? Des hommes qui ont abandonné sa parole. Je peux commencer au verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race méchante, aux enfants corrompus. Regardez bien. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière, vous voyez bien, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. En fait, on peut, déjà en lisant ici, on peut croire que c'était vraiment des plaies. Non, en fait, ces plaies-là, ce sont toutes ces abominations qu'ils commettaient. C'était déjà des plaies, des infections, voilà, aux yeux de Dieu. Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile, voilà. Que le pécheur ou que le chrétien qui a quitté Jérusalem et qui descend vers Jéricho sache qu'il est en train de se mettre sur son corps des plaies. Des plaies que seul Dieu ne peut réparer. Tu sais, des fois, quand on est chrétien et qu'on commet certains péchés, que vraiment on a la conscience, quelque part, il y a une certaine culpabilité. Et ça fait très mal. Parce que plaie, ça ne fait pas du bien, ça fait aussi très mal. Mais il y a curieusement des gens qui se plaisent à marcher avec ces plaies.
Ils ont tué leur conscience.
Voilà. Ils se plaisent à marcher avec des plaies. Ça leur dit rien du tout. Et bien que ces personnes sachent que la seule personne qui peut sauver, qui peut nous ôter de cet état, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je lis ce texte où on parle du travail de Jésus. La Bible dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand on parle de la guérison, c'est pour dire que le péché nous rend malades. On a besoin d'une guérison. On a besoin d'un médicament approprié. Et ce médicament, ce n'est pas la quinine, ce ne sera pas la tétracycline, mais ce médicament, c'est seulement la parole. La parole, c'est Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des richesses, mais si on n'a pas Christ, on est malade devant Dieu. Ça, c'est très important. Et on a besoin du bon samaritain. Et si Jésus-Christ, on l'appelle bon samaritain, eh bien, d'abord, les samaritains, c'était pas des gens considérés juste aux yeux des juifs. Pour les juifs, c'était des pécheurs.
Tout à fait.
Samarie, c'était la capitale d'Israël à l'époque. Mais il s'est fait qu'à une certaine époque, on peut le lire dans 2 Rois chapitre 17, à une certaine époque, Israël avait commencé à pécher, à désobéir. Et le dernier roi d'Israël, qui s'appelait Osée, avait commis beaucoup de mal avec son peuple, avait entraîné le peuple dans des grands maux. Et Dieu a permis que le peuple assyrien vienne prendre les Israélites et les amener captifs. Alors, la ville était devenue déserte. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? Il a pris des gens des autres villes, hein, des païens, si je peux le dire, des autres nations. Il les a remplacés dans la cité où se trouvaient les enfants d'Israël. Et ces gens ont commencé à vivre là. Et c'est là qu'ils ont vécu jusqu'à ces jours pour beaucoup. Ils ont continué à vivre. Mais c'était des gens qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, qui ne connaissaient pas...
Ils ont fait un mélange.
Voilà. Et ils ont connu même des problèmes. Pour ceux qui peuvent le lire, c'est dans 2 Rois chapitre 17, il y a le verset 6, le verset 24 à 34. Et c'est ceux-là qui sont les Samaritains, la femme samaritaine. Elle était la descendante de ce peuple-là.
De ce peuple-là.
Voilà. Mais en fait, c'était des gens impurs aux yeux de Dieu, aux yeux même des Juifs, ça c'est vrai. Mais en fait, Jésus-Christ, nous l'identifions aussi à ces gens-là, pas pour dire qu'il est impur, non. Mais pour dire, en fait, Jésus, pour nous sauver, il a accepté d'être impur. Il a accepté de porter les péchés des hommes. Il est le seul qui a pu faire ça. Il a accepté ces choses. On va lire ce verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Pour nous sauver, il a fait ce sacrifice de devenir impur, c'est-à-dire de porter le péché des hommes. Lui qui n'était pas...
2 Corinthiens 5.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 21.
Celui qui n'a point connu le péché, voilà. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Voilà pourquoi je ne peux pas hésiter de dire que Jésus est le bon samaritain. C'est-à-dire, il n'a pas connu le péché. Jésus-Christ a marché sur la terre sans commettre de péché.
Droitement, justement, oui. Devant Dieu.
Et il n'est même pas le descendant d'Adam. C'est-à-dire, il n'est pas le fruit de l'union d'un homme avec une femme. Il n'est pas le fruit de la fusion d'une gamète mâle avec une gamète femelle. Non. Donc, il est le fruit du Seigneur lui-même. Le Saint-Esprit, par sa puissance, a fait que le Seigneur se retrouve dans les seins de Marie. Donc, personne ne peut dire que non, il est descendant...
Il y a tellement de théories sur la paternité de Jésus.
Oui, et pourtant c'est pas du tout ça. Quand je vois ce texte, je dis il est le bon samaritain, il est la personne qu'il fallait. Donc, une façon de dire, la seule personne qui peut nous guérir, mes bien-aimés, c'est Jésus. Nous qui avons choisi de marcher dans le péché. Vous qui êtes là, vous choisissez le péché comme ami. Et vous voulez maintenant quitter de cette vie, dans cette vie. Vous avez seulement besoin de Jésus. Seul Jésus peut vous ôter de ce mal. Seul Jésus peut porter votre mal et faire en sorte que vous soyez pur aux yeux de Dieu.
La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen.
Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Seul Jésus-Christ, comme a dit Jonathan il y a quelques instants en arrière, est capable de ôter le péché.
Amen.
De la vie d'une personne. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme de Dieu, il n'y a aucun abbé, aucun pape, aucun évêque, aucun qui que ce soit qui puisse ôter le péché de la vie de quelqu'un, si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice en lui.
Amen.
Il n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché. Il a porté les péchés du monde entier, afin que personne ne périsse. Mon frère, ma sœur, Dieu vous parle en ce moment. Vous êtes peut-être dans la situation de cet homme qui a déjà quitté Jérusalem et qui s'est retrouvé à demi-mort. Le baptême ne sauve personne. Le fait d'aller à l'église, ça ne sauve personne. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et il frappe à votre porte ce matin, cet après-midi, ce soir, et il vous dit, ouvrez-lui les portes de votre cœur, afin qu'il prenne le péché de votre vie sur lui et qu'il vous donne la justice de Dieu. Il offre ce salut à quiconque croit. Ce n'est pas une catégorie de personnes, les blancs ou les noirs ou bien les asiatiques ou les sud-américains, qui ont plus de salut que d'autres. Non, c'est une question de foi dans le message que vous venez d'entendre. Seul Jésus-Christ sauve. Et si c'est cela votre désir, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi. Je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour ma rébellion. Pardon pour ma froideur face à la parole de Dieu, à la marche chrétienne. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je renonce au péché, je renonce au mensonge, et j'accepte Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci pour ton pardon, ton amour, ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à
Amen.
Rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.